Votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, 7h.
C'était un petit peu compliqué au niveau de la logistique entre les ARS, entre le dépositaire, où il n'y a pas forcément la communication nécessaire.
C'est un parcours semé d'embûches, mais le défi doit être relevé et il l'est progressivement. La vaccination s'accélère en France, notamment dans les EHPAD, vous l'entendrez.
Le vaccin pour lutter contre le Covid, au même titre que le couvre-feu, il est renforcé dans 8 départements, dont les Bouches-du-Rhône, et ça ne plaît pas aux Marseillais.
18 ans après la disparition d'Estelle Mouzin, les habitants de Guermantes se sont rassemblés hier pour une marche blanche. Michel Fourniret a avoué le meurtre, mais le corps de la fillette n'a jamais été retrouvé.
C'est peut-être déjà fait, mais vous avez jusqu'à fin janvier la saison de la galette des rois à démarrer. Elle est bonne pour le moral, elle est bonne pour le portefeuille des boulangers.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
D'ici ce soir, plus de 100 000 Français devraient avoir reçu leur première dose du vaccin anti-Covid. La campagne s'accélère donc en France.
Avec cet objectif du million de personnes vaccinées fin janvier, pour l'instant, seuls les soignants de plus de 50 ans et les résidents d'EHPAD peuvent se faire vacciner. En EHPAD, justement, le rythme est de plus en plus soutenu, malgré une logistique parfois un peu compliquée. Reportage dans la maison de retraite des Amandiers à Paris, signé Victor Dolande.
Dans le réfectoire, 33 résidents sur un peu plus d'une centaine dans cet EHPAD ont dit oui à la vaccination. Françoise, 90 ans, a bien pris le temps de comparer les bénéfices et les risques. Aujourd'hui, elle est décidée.
Moi, je me suis dit, c'est une question d'hygiène, d'épidémie, surtout d'épidémie, et qu'une vaccination comme celle-là est toujours utile.
Elle présente son bras gauche pour l'injection. L'infirmière la rassure à chaque étape.
Je pique, oui. Voilà, c'est fini. Ça s'est bien passé ?
Voilà, très
d'accord.
Bien, madame.
Et bien là, on va vous garder 30 minutes avec nous, hein, sous surveillance, je vais vous accompagner.
Si le recueil du consentement a été assez long dans cette maison de retraite, plusieurs semaines depuis les premiers courriers envoyés aux résidents début décembre, la vaccination, elle, a été avancée d'une journée. Mais selon la pharmacienne qui a acheminé les doses, Sandrine Chirico, ça manque encore de fluidité.
Ça a été un petit peu compliqué au niveau de la logistique entre les ARS, entre Santé publique France, entre le dépositaire, où il n'y a pas forcément la communication nécessaire.
Et grâce à sa ténacité, elle a obtenu 10 flacons de 5 doses pour ne pas gaspiller. Les personnels et le médecin coordonnateur de l'EHPAD ont eux aussi reçu la première injection du vaccin Pfizer.
Reportage de Victor Dolande. D'ici le 18 janvier, toutes les personnes de plus de 75 ans pourront à leur tour se faire vacciner. Il suffira de prendre rendez-vous. La campagne est lancée et elle va encore s'accélérer selon la journaliste du JDD Anne-Laure Barret.
Emmanuel Macron présidera demain une réunion à l'Élysée, notamment sur le sujet du vaccin. Et l'idée, c'est de maintenir l'attention pour que l'accélération constatée cette semaine se poursuive et que le rythme continue à s'accélérer. Vendredi soir, il y avait déjà 169 nouvelles structures qui étaient opérationnelles. La semaine prochaine, 200 nouveaux lieux de vaccination devraient voir le jour. L'idée, c'est de vacciner le plus de monde possible et les autorités se demandent, les élus également, comment atteindre les personnes âgées qui vivent chez elles, mais qui ont des difficultés de mobilité. C'est fréquent avec l'âge. Et dans de nombreux endroits, on cherche à créer des équipes mobiles. Les infirmiers, les médecins pourraient aller au domicile des personnes âgées pour les vacciner directement chez eux.
Anne-Laure Barret du JDD avec Marion Gauthier.
Depuis le début de cette campagne de vaccination, on se compare à nos voisins, l'Allemagne, le Royaume-Uni, qui ont démarré beaucoup plus rapidement que nous. En la matière, sachez que le pays le plus efficace est Israël.
Ah oui, plus d'1,5 million de personnes ont déjà été vaccinées. C'est un record dans le monde. Comment ont fait les Israéliens ? Eh bien, réponse avec notre correspondante à Jérusalem, Clotilde Mravko.
Dans la course mondiale au vaccin, Israël a commencé bien avant tout le monde. Dès le mois de juin, l'État hébreu a commandé des doses au laboratoire Moderna. À l'époque, le vaccin anti-coronavirus était loin d'être au point et les autorités israéliennes n'ont pas lésiné sur la dépense, explique le professeur Nadav Davidovich, membre du Conseil national israélien sur le Covid-19.
Il y a le secret des affaires, mais a priori, Israël a payé le double du prix normal.
À cela s'ajoute l'attitude des Israéliens. Ils sont venus en masse se faire vacciner. Dès les premiers jours, encouragé par une vaste campagne médiatique.
Nous avons une longue tradition de vaccination et nous avons une très bonne infrastructure de centres de santé communaux.
Le gouvernement israélien espère immuniser sa population d'ici mars. En attendant, le pays est à nouveau confiné depuis fin décembre. Si la campagne de vaccination est un succès en Israël, l'État hébreu est sous le feu des critiques car il n'a pour l'instant rien prévu pour les territoires palestiniens occupés. Jérusalem, Clotilde Mravko, Europe 1.
Et la stratégie en France est-elle la bonne? Faut-il encore aller plus vite? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera l'invité du grand rendez-vous d'Europe 1 tout à l'heure à 10h. La donne en tout cas a changé ces derniers jours, depuis que l'on sait que le variant anglais très contagieux est donc arrivé en France.
Le dernier cas a été détecté à Marseille. Il s'agit d'une personne qui travaille en Grande-Bretagne et qui est rentrée pour les fêtes. 24 membres de son entourage sont également contaminés, mais on ne sait pas s'il s'agit de la souche anglaise. Pour éviter en tout cas la propagation du virus, le couvre-feu à 18h est étendu à partir d'aujourd'hui à 8 nouveaux départements de l'Est de la France, et c'est le cas notamment des Bouches-du-Rhône, où les habitants ne comprennent pas cette mesure.
Eh oui, c'est trop tôt. Les gens, ils finissent le travail à 18h, comment on va faire? C'est vraiment dur, dur.
Entre 17 et 19h, c'est vrai que c'est un manque à gagner. Cette clientèle, je ne sais pas comment elle va se débrouiller, à quel moment elle va sortir du travail pour aller faire ses courses.
Et je doute, je ne vois pas trop la différence entre 18h et 20h en réalité. Encore à la limite, 20h, c'est pour éviter les soirées privées, ça je comprends. Mais entre 18h et 20h, je ne vois pas bien ce qu'on faisait, vu qu'on n'allait pas dans les bars, vu qu'ils sont fermés. On allait éventuellement faire des courses, mais là, ça va se cumuler le week-end, donc... Je ne suis pas sûr que ça ait un effet très positif.
Des Marseillais au micro Europe 1 de notre correspondant Stéphane Frangis.
Oui, couvre-feu avancé également en Côte d'Or. Nous recevrons le président du département tout à l'heure à 7h40, François Sauvadet.
Cette petite phrase signée Anne Hidalgo dans le journal du dimanche, pas tendre avec la gestion de crise de l'exécutif. Avec de telles carences, le débarquement de juin 44 aurait échoué. La maire de Paris dénonce notamment la stratégie de vaccination et elle appelle le gouvernement à faire davantage confiance aux élus locaux.
Il est 7h07, une centaine de personnes a bravé le froid hier, marché dans les rues de Guermantes à la mémoire d'Estelle Mouzin.
Comme tous les ans, son père organisait une marche blanche qui cette année était particulière puisqu'on sait qu'un homme a reconnu les faits. Il s'agit du tueur en série Michel Fourniret. 18 ans après la disparition, le corps d'Estelle Mouzin toutefois n'a jamais été retrouvé. Caroline Baudry était à Guermantes en Seine-et-Marne hier.
Juste devant la boulangerie, c'est d'ici qu'est parti le cortège, là où Estelle Mouzin a été aperçue pour la dernière fois lors de sa disparition en 2003. Une centaine de personnes, menées par le père d'Estelle, Éric Mouzin, a marché dans le silence jusqu'au cerisier planté en mémoire de la victime. Les pièces du puzzle s'assemblent petit à petit, a déclaré Éric Mouzin, dans cette petite commune encore sous le choc. Écoutez Tony, il connaissait Estelle et ses parents, comme d'autres habitants ici. Il vit avec ce drame depuis 18 ans.
On a une souffrance permanente. Le seul truc qu'on veut, c'est que M. Fourniret nous dise où est le corps. Je pense au papa et à la maman qui ont envie de faire un deuil. Et je pense à la commune de Guermantes qui a envie de faire un deuil. Tant qu'on n'aura pas trouvé le corps, pour moi, ce sera une souffrance.
Un corps qui reste introuvable malgré des fouilles en décembre dans une ancienne propriété du tueur en série. D'autres fouilles auront lieu, a affirmé hier l'avocat de la famille Mouzin.
Un reportage de Caroline Baudry à Guermantes. L'ancien gendre de Patrick Balkany a été mis en examen hier. Il est poursuivi pour recel, abus de biens sociaux et blanchiment aggravé. La fille de l'ancien maire est placée sous le statut de témoin assisté. Patrick Balkany lui-même a été placé en garde à vue mercredi dans cette affaire où des locaux désaffectés auraient été loués illégalement.
Peut-être un espoir en Indonésie, un signal provenant de l'avion disparu hier a été détecté en mer.
Un peu plus tôt, des débris avaient été retrouvés dans la zone de recherche. L'avion se serait donc bel et bien abîmé peu après le décollage de Jakarta. Une soixantaine de personnes se trouvaient à bord. Et puis en Espagne, 4 personnes sont mortes après le passage de la tempête Filomena et ces chutes de neige impressionnantes. Toute la région de Madrid est paralysée.
Ouais, 50 ans que ça n'était pas arrivé dans le pays. En handball, ils nous avaient habitués à la victoire. Alors forcément, quand ça ne va pas, on se pose des questions.
Ouais, à une semaine du mondial en Égypte, les Bleus ne sont pas très rassurants, c'est peu dire. Pas une seule victoire lors des 2 derniers matchs de préparation. La France ne fait plus peur, Axel May.
Sur le papier, les Bleus, 2 titres olympiques, 6 médailles d'or mondiales et 3 fois champions d'Europe auraient dû dominer leurs adversaires. Mais voilà, 4 jours après avoir perdu la première confrontation en Serbie, les hommes de Guillaume Gilles, qui étrennent ses habits de sélectionneur, n'ont pu faire mieux hier soir à domicile que match nul contre ces mêmes Serbes. Le capitaine, Mikael Guigou, ne se voile pas la face.
Il y a plusieurs choses à retenir. La première, c'est qu'on n'est pas encore au niveau qu'on espère et qu'on veut avoir. Après, la deuxième, c'est qu'on est malgré tout dans le bon état d'esprit, même si par rapport au match qui nous attend contre la Norvège, la marche était un peu haute. Et en tout cas, par rapport à ce qu'on a montré sur ces deux premiers matchs, on est encore loin de ce niveau-là. Mais on est sur la bonne voie et il ne faut pas qu'on lâche.
La Norvège, qui sera le premier adversaire des Bleus jeudi prochain au championnat du monde en Égypte, une compétition que les Français, privés de leur star, Nicolas Karabatic, blessé au genou cet automne, vont aborder sans certitude un an après leur élimination dès le premier tour du championnat d'Europe. Et malgré le changement de sélectionneur, ceux qu'on surnommait encore récemment les ex experts risquent une nouvelle fois de rentrer prématurément à la maison.
Axel May, en football, Lyon est sacré champion d'automne. À mi-saison, l'OL est premier de la Ligue 1 avec un point d'avance sur le PSG qui a battu Brest hier et sur Lille. En ski, c'est un géant parmi les géants. Alexis Pinturo est plus que jamais leader de la Coupe du Monde. Il a remporté hier son deuxième slalom géant d'affilée à Adelboden en Suisse avec une saveur particulière.
C'est le géant, si on faut en citer un normalement, c'est Adelboden, c'est celui où on a toujours envie de briller. Bien sûr, toutes les pistes sont belles, mais Adelboden, il y a quelque chose de spécial. Tous les gens veulent venir pour le géant ici, et donc c'est ça qui fait que c'est très différent des autres courses. Et d'avoir pu gagner deux fois ici, c'est quelque chose d'assez remarquable, et c'est pour ça que je suis fier de moi.
Alexis Pinturo qui s'élancera tout à l'heure sur le slalom.
Vous êtes allé à Adelboden ?
Non, jamais.
Ah bah si, il faut y aller. Tradition, autre tradition après Adelboden. Elle n'est pas prête de se perdre. Elle est à base de pâte feuilletée et de frangipane.
La galette des rois s'est déjà retrouvée sur pas mal de tables depuis le week-end dernier. Alors toutes, évidemment, ne se valent pas. Toutes les galettes ne se valent pas. Mais ce qui est sûr, c'est que pour les boulangers, c'est l'une des bonnes affaires de l'année. Reportage à Strasbourg de Mélina Fachin.
La file d'attente est longue devant la boulangerie-pâtisserie Hans et tout le monde vient pour la même chose.
Une galette. Enfin, plusieurs, parce qu'elle est très très bonne.
Et pour cause, le boulanger, Olivier, a remporté 10 médailles d'or de la meilleure galette frangipane du Bas-Rhin, sa recette.
J'ai étalé mon feuilletage très fin. Ensuite, nous allons mettre notre frangipane dedans, sans oublier la fève. Et nous allons recouvrir tout ça d'un autre disque de pâte. Nous allons le dorer deux fois, avec un repos de 2 heures minimum. Et ensuite, une cuisson assez vite pour que la galette soit juste dorée.
Olivier n'utilise que des produits de qualité, des grains de vanille plutôt que de l'extrait liquide, des amandes blanches. Malgré tout, à 15-20 euros environ la galette, il se dégage une bonne marge.
Le bénéfice, il doit être aux alentours de 20-25% du prix de la galette. Mais après, on ne compte pas non plus nos heures parce que je pense qu'on doit faire 3500 ou 4000 galettes au mois de janvier.
Même si cette année, le Covid aura sans doute un impact sur les ventes, fini les très grandes galettes pour les comités d'entreprise ou les rassemblements. En 2021, les rennes, ce sont les 4 ou 6 parts. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Et voilà, donc galette ou pas galette, galette ?
Oh bah oui, galette.
Vous en êtes à la combientième ?
Troisième. La quatrième est déjà à la maison.
Oh la gourmande !
Pour le retour dans la matinale.
Bon, à tout à l'heure pour le journal de 8h.